Il a été question de faire une planification à plus long terme de l'urbanisation de nos villes pour 20 ans et au-delà, parce que jusqu'à présent, toutes les planifications se sont faites sur 5 à 10 ans. Et d'autre part, il a été recommandé que des constructions et des codes d'urbanisme puissent être élaborés au niveau africain et qu'ils puissent être vulgarisés et surtout appliqués. Les villes africaines sont différentes les unes des autres. Il n'y a pas un schéma type. Donc, il a été surtout question d'une urbanisation adaptée et spécifique à chaque contexte.
Alors justement, en ce qui concerne les contraintes en relation avec donc les caractéristiques du continent, notamment la chaleur, la météo, les contraintes environnementales, qu'est-ce qu'il a été donc conclu par rapport à cela?
Il a été recommandé effectivement de tenir compte de l'aspect contextuel, parce qu'une ville du Sahel n'est pas une ville d'Afrique australe. Il est important, je pense qu'aujourd'hui, de penser climat, de penser environnement, de penser espace vert notamment, parce que nous, particulièrement au Sahel, nous avons très peu finalement d'espace vert et nous plantons peu. C'était aussi de créer des filières de main-d'œuvre développée et professionnelle localement, une main-d'œuvre qui puisse prendre en charge l'édification de nos villes et de créer aussi des filières de matériaux de construction locales, c'est-à-dire penser aussi à une architecture bioclimatique qui serait finalement en fait adaptée un peu aux besoins des personnes qui occupent ces diverses constructions.
Alors, en ce qui concerne le design de l'architecture, des habitations, des bâtiments, etc., est-ce qu'il en a été question également? Parce qu'on parle des villes africaines du futur, donc notamment de mêler le moderne au traditionnel.
Effectivement, aujourd'hui, il s'agit pour nous de définir une identité architecturale aussi au Sahel. Il y a plusieurs milliers d'années, l'architecture traditionnelle sahélienne était une architecture reconnue. Nous avons perdu un peu cette fibre identitaire. Il s'agit effectivement de repenser la ville moderne, pas forcément comme une ville futuriste ou une ville censée ressembler à tout ce qu'on peut voir à travers le monde. On estime entre 80 et 90% de la population qui est concernée par un type d'architecture alternative qui est encore à trouver. Parce qu'aujourd'hui, on parle seulement de l'architecture traditionnelle archaïque qu'on connaissait en terre crue. Et on va directement de l'autre côté à l'architecture moderne en béton. Et finalement, ça laisse très peu de marge et ça laisse très peu de possibilités pour les bourses intermédiaires qui finalement sont les plus nombreuses. Donc voilà un peu tous les défis qui est de penser aux logements sociaux. Donc, il faut quand même qu'on puisse reprendre tous ces problèmes économiques et contextuels, puis les régler à travers l'architecture et l'urbanisation.
Alors, on sait que la population africaine aura doublé d'ici 2050 et 6 Africains sur 10 vivront en zone urbaine. Alors ça, c'est un réel problème que vous rencontrez dans les grandes cités africaines. Et l'on sait qu'on a énormément de constructions anarchiques, des problèmes de bidonvilles, etc. Quels sont les plans, quelles planifications pour les infrastructures urbaines concrètement?
On estime aussi que 2/3 des infrastructures donc nécessaires pour accueillir cette population à l'horizon 2050 n'ont pas encore été construites. Je pense que le problème de fond, il y a un problème de mise en œuvre parce que jusqu'à aujourd'hui, les plans de développement ont été élaborés, mais très peu ont été respectés. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons penser à des plans à plus long terme et surtout des procédures de mise en œuvre qui doivent dire clairement quand, comment et avec quels moyens ces plans doivent être mis en œuvre. C'est le challenge aujourd'hui des urbanistes et je pense qu'il y a un problème aussi de prise en charge des réalités contextuelles, des études de terrain, des études sociales, des études environnementales. Donc nous encourageons que ces documents soient faits localement et qu'ils soient faits par des professionnels africains.
Vous avez été nommée en 2019 présidente de l'Ordre national des architectes du Tchad. Vous êtes la première femme architecte dans votre pays. Quels ont été les obstacles que vous avez rencontrés, que vous rencontrez encore, notamment au sein de cette profession qui est typiquement masculine?
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'architecture est un cercle évidemment très fermé pour les femmes, et pas seulement ici au Tchad ou en Afrique, c'est un peu partout le cas dans le monde. Je suis la première femme architecte en France, je crois que ça date de 1915. Donc je pense que c'est un métier qui est quand même assez jeune un peu partout, et encore plus ici en Afrique. Et je pense qu'il y a plus par problème d'opportunité, parce que nous n'avons pas d'école de formation en architecture ici, pratiquement dans le Sahel. Il faut aller très loin pour trouver, et c'est des études qui coûtent particulièrement cher. Voilà pourquoi la plupart des femmes ne s'engagent pas, je pense, dans ce pays-là, dans ce secteur. Mais c'est un gros manque à gagner, effectivement. Moi, personnellement, je m'étais pas beaucoup rendu compte parce qu'il a fallu que je revienne ici chez moi pour me rendre compte que j'étais la première femme architecte. Pendant mes études, je ne le savais pas. Et de ce point de vue, j'ai pas forcément eu des problèmes très 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 importants. Au départ, le problème est le même, c'est une femme qui va sur les chantiers.
L'on imagine que vous travaillez dans le monde de la construction avec beaucoup d'hommes. Est-ce que vous envisagez éventuellement d'intégrer plus de femmes dans la profession?
Alors effectivement, aujourd'hui, nous avons besoin d'un mentor, d'une icône en fait dans l'architecture. Nous avons besoin de voir d'autres personnes dans ce domaine. À mon avis, depuis que j'ai ouvert cette porte ici au Tchad, pas mal de femmes se sont finalement ont vu que c'était faisable et que c'était possible. De ce point de vue, je reçois pas mal de mails de jeunes filles qui me disent qu'elles voudraient s'engager aussi en architecture parce que finalement, ça devient possible pour toutes les femmes de s'engager dans ce secteur. Nous avons créé avec quelques amis une association il y a quelques années pour encourager les femmes, pour finalement les désinhiber parce que c'est un problème psychologique à la base de se dire que nous ne sommes peut-être pas en mesure de faire ces choses-là. Et finalement, on voit quelqu'un s'engager sur ce secteur et puis on voit que la personne arrive quand même à faire ce qu'elle a envie de faire.